Castellucci, Agathe Alexis.
Mein Kampf et le courage de ma mère. Et puis, donc, j'ai vu cette mise en scène de Lavelli. Et par la suite, j'ai rencontré un acteur avec lequel j'ai travaillé, qui s'appelle John Arnold, qui s'est épris énormément de ce texte. Et je dois dire qu'incité, propulsé par lui dans le texte, je me suis dit, tiens, voilà, c'est une bonne idée, il faut monter aussi des textes pour des acteurs. Je l'ai d'abord monté sous la pulsion de John Arnold, et ensuite je l'ai monté avec tous les acteurs qui font partie de ce spectacle. J'ai mis un an et demi à réunir cette distribution. Donc pourquoi Tabori avant Se masquer ? C'est un juif d'origine hongroise qui est né à Budapest, d'une famille d'intellectuels, qui n'est pas juif pratiquant, qui n'est pas juif croyant, mais c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup sur le sens du sacré. Le sacré et le profane se côtoient d'une façon très très forte dans ses pièces. Et donc Mein Kampf raconte, comme vous le dites, la rencontre du juif Shlomo Herzl avec Hitler. Ça part d'un fait divers, c'est-à-dire dans les années 1910, Hitler arrive à Vienne pour présenter ses dessins à l'académie. Il veut devenir peintre. Et donc il va présenter ses dessins, il n'a pas d'argent, il n'a pas de situation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un SDF, il va frapper à une porte. Alors il faut toujours faire attention, je crois, c'est un homme rusé, c'est un lecteur du Talmud. Moi je ne suis pas une lectrice du Talmud, je suis une lectrice de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais pas du Talmud, je n'ai pas suffisamment étudié dans ce sens. Et donc il dit, voilà, cet homme arrive dans la rue du sang, Bludenstrasse. Hitler arrive dans cette rue du sang, et au-dessus de cette boucherie, qui n'est pas cachère, où on égorge des cochons de juifs, il y a un asile de nuit qui est tenu par un juif qui s'appelle Shlomo Herzl. Alors évidemment, en abordant cette pièce, je me suis dit, quand même, un juif qui rencontre le personnage d'Hitler, qui lui apprend un certain nombre de choses, etc. Voilà une pièce bien politique, donc il faut que je lise des choses concernant notamment la vie de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme. Donc je suis partie dans cette voie, et je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait, ça n'était pas ça, c'était autre chose. Et donc je me suis mis à lire beaucoup de comptes rendus, de Tabori, d'interviews, etc. Et ce que Tabori dit, et qui a été pour moi très éclairant, c'est qu'il écrit une parade théologique. Voilà. Alors il y a dans cette pièce donc Hitler, qui incarne aux yeux de tout le monde la figure du mal incarné. Il y a donc ce fameux juif Shlomo, un petit juif qui donc fait office de directeur d'une maison des sans-logis. Il y a également un personnage qui s'appelle Lobkowitz. Witz, ça veut dire blague, hein, en allemand, qui se prend pour Dieu, enfin qui incarne ce Dieu des Juifs qui n'a pas de figure, qui n'a pas de visage, hein, qui est plutôt le Dieu des Juifs est un rapport avec sa conscience, est un rapport de soi à l'autre, mais dans le cas de la conscience. Il y a également, passe dans cet asile, une toute jeune fille qui s'appelle Gretchen et une autre figure qui s'appelle Madame la Mort. Et donc je me suis rendu compte effectivement qu'on avait là toutes les figures d'un, disons peut-être même d'un tableau du Moyen-Âge, peut-être même d'un Fra Angelico, et c'était à ce titre-là qu'il fallait lire cette pièce, c'est-à-dire dans le sens d'une rencontre, je crois que c'est une pièce qui traite beaucoup de l'altérité.
Mais alors dans ce tableau quand même, la figure d'Hitler nécessite un traitement un peu particulier, parce que l'incarnation du mal ne peut pas se traiter.
Non, c'est-à-dire que voilà, Tabori ne la traite pas comme l'incarnation du mal. D'abord, il y a une chose très importante, c'est qu'il prend le titre de Mein Kampf. Il monte cette pièce en 1986 à Vienne. Il est donc depuis 14 ans à Vienne, et il la monte au Schiller Theater de Vienne, un des théâtres les plus importants. Et il prend le titre du livre d'Hitler. Et or, il se trouve que dans la pièce, c'est le juif ce juif Shlomo, qui veut écrire un livre pour être un homme bon, qui veut chasser la méchanceté de son cœur. Et face à son dieu, donc ce fameux Lobkowitz qui est présent, qui fait partie des indigents de l'asile, il va tenter d'écrire un livre pour devenir un être bon. Et la pièce commence ainsi. à Vienne, 1910, par une nuit d'orage, de tempête et de froid, le coq chante trois fois. Un personnage est là qui attend avec sur la tête un grand chapeau de cuisinier. Il s'agit de Lobkowitz, qu'on appellera seigneur. Et arrive Shlomo qui rentre de sa nuit de vente dans la nuit. Il ne rentre que le matin à l'aube. C'est aube, ou si on s'en réfère aussi à la Bible, l'aube dans laquelle Pierre trahit trois fois le Christ, avant que le chant du coq ne chante trois fois « Tu me trahiras », dit Jésus. Donc arrive Shlomo Herzl avec sa Bible, ses Bibles, parce qu'il vend et la Bible et le Kama Sutra, selon que, bon, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Et il arrive et Dieu, en la personne de ce cuisinier, cachère, chassé de son restaurant par son patron, parce qu'il a mélangé du bœuf bouilli avec du fromage blanc, ce qui est interdit dans les lois de Moïse, on ne mélange pas ces deux choses, là. Et donc, il s'insurge contre sa créature, parce que sa créature rentre et veut se dérober, veut rentrer se coucher. Parce qu'il est 6 heures du matin, toute la nuit, il a erré dans les rues en essayant de vendre la Bible et le Kama Sutra. À mon avis, il a plus vendu de Kama Sutra que de Bible. Et donc, ce jour-là, dans cette nuit-là, le juif Shlomo en a marre de ce Dieu qui ne fait que donner des coups de pied dans le cul et dire « tu dois respecter les 10 commandements ». Or, il se trouve que ce matin-là, dans cette neige-là, Lobkowitz Dieu dit à Shlomo « écoute, j'ai fait quelque chose de bien pour toi. J'ai remanié les 10 commandements. Il n'en reste plus que 3. 1. Tu honoreras tes parents, ça c'est sûr, mais si tu peux pas le faire vraiment, au moins tu les téléphones une fois de temps en temps. D'abord, tu honoreras un seul Dieu, c'est moi. Et troisièmement, l'adultère est toujours interdit, ça fait partie des tubes incontournables. Donc, et Shlomo dit ce jour-là, j'en ai assez, je ne veux plus être la créature de Dieu qui doit subir les 10 commandements et recevoir des coups de pied dans le derrière. Et donc il dit, écoute, voilà, Dieu, Shlomo, je ne t'appelle plus Seigneur, je t'appellerai comme tu quel est ton nom, c'est Lobkowitz, je vais écrire un livre pour chasser la méchanceté de mon cœur, pour devenir un juif bon, parce que je suis aussi un juif mauvais. Et donc on va chercher des titres. Elle lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est ton livre? Écoute, je n'ai pas commencé à écrire ce livre, je n'y arrive pas. J'ai commencé que par la fin, mais je n'arrive pas à entamer le début. Alors on dit, bon, mais puisque tu ne veux pas entamer le début, tu vas au moins commencer avant le début. Donc avant le début, qu'est-ce qu'il y a? Ben, avant le début, il y a le titre. Donc il faut chercher un titre. Alors on cherche un titre qui doit être digne d'un best-seller. Alors on commence ma vie, bon, c'est pas un très bon titre. Les joyeuses commères de Shlomo, c'est pas un bon titre. Enfin bref, on passe Roméo, Shlomo et Juliette, c'est pas un bon titre non plus. Et puis au milieu de tous ces titres arrive Mein Kampf. Et ça, Dieu trouve que c'est un titre formidable. Et à ce moment-là, éclat, tonnerre, arrive Hitler. Hitler qui est tout jeune, qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui est très mal vêtu. Et donc Shlomo va le recueillir dans sa maison et va premièrement commencer à lui apprendre la politesse, parce que c'est un être extrêmement malotru, c'est un paysan brutal et un peu vulgaire, assez antisémite, effectivement, même parfaitement antisémite. Et donc Shlomo va le prendre en pitié, va d'abord commencer à lui donner la première chose qui est la grande loi judaïque, c'est-à-dire, premièrement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, deuxièmement, tu l'éduqueras, tu lui donneras ton savoir, tu lui passeras ta science. Donc il commence à lui apprendre la politesse, et deuxièmement, comme l'autre s'enfonce également dans ses propos antisémites, il va lui montrer qu'est-ce que c'est qu'un nom. Et il trouve d'abord, premièrement, qu'il a un physique peut-être un peu juif. Et alors il lui montre comment son nom, Hitler, vient d'un autre nom qui s'appelle Schüttler, qui est une tribu qui a émigré en Allemagne. Et cette tribu qui a émigré n'a pas pu voulait se payer un nom à la frontière pendant l'émancipation. Seulement, ils étaient très pauvres. Et ils auraient bien aimé s'appeler Beethoven, mais c'était déjà pris, Hohenzollern, s'il fallait beaucoup d'argent. Bref, ils avaient très peu d'argent, on leur enlève seulement un tréma sur le U et un S, ce qui fait qu'il reste Hitler. Voilà. Et alors Hitler est catastrophé, naturellement, de voir que son nom peut être décliné ainsi et que sous le nom d'Hitler, derrière le nom d'Hitler, il peut y avoir celui de Schüttler, le nom d'un juif. Alors, évidemment, c'est un grand plaisantin. Et Tabori, Hitler dit, mais comment ça se fait? C'est ça, cette Vienne décadente, c'est ça, la décadence de Vienne, c'est-à-dire vous êtes tous là, les juifs, vous êtes partout.
Et Agathe Alexis, vous n'allez pas nous raconter toute
non,
la pièce
comme ça. Non, je vous
raconte
pas la pièce.
Hein
c'est
assez passionnant.
Oui, mais il est très important de comprendre la grammaire de la chose.
Parce qu'on était déjà à la scène 3, là, ou 4.
Non, on n'en est que les trois premières répliques.
Oh.
Et Hitler dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quoi ce que tu racontes là? C'est ça, Vienne? Et j'arrête là sur l'histoire. Il dit, et Shlomo dit, non, ça, c'est pas Vienne. Ça, c'est le Talmud. Voilà, c'est pour en revenir à Tabori, qui est un grand lecteur du Talmud.
Mais moi, j'en reviens à ma question, comment vous avez traité le personnage d'Hitler?
Mais je l'ai traité, je vous répondrai par ce que demande d'abord le théâtre de Tabori, c'est-à-dire de ne pas faire de forcing sur un rôle, mais de travailler avec les acteurs. C'est pas moi qui l'ai traité, quelque part, c'est John Arnott qui l'a traité, il l'a traité en le rapprochant de lui, en le rendant humain. Et ce qu'il y a de révoltant, je pense qu'il y a beaucoup choqué et révolté, c'est que justement Shlomo se prend d'amitié, d'amour, pour ce sans-logis, pour
ce... Il lui dit « je t'aime ».
Oui, il lui dit « je t'aime ». À un moment donné, est-ce que Hitler peut demander de l'amour d'un juif? Et c'est ce que Hitler demande de la part de Shlomo. Et Shlomo lui dit, à un moment donné de la pièce, « quand je te vois là, démuni, les larmes aux yeux, malheureux, démuni... dépossédé de toi-même, oui, à ce moment-là, oui, peut-être que je t'aime. » Et effectivement, il lui raconte une histoire pour lui montrer qu'est-ce que c'est que le véritable amour, c'est de raconter des histoires. Et il y a une phrase très récurrente dans la pièce de Tabori qui est « c'est peut-être ça le but de la poésie, parler à des gens méchants, à des enfants très méchants, jusqu'à ce qu'un frisson d'amour passe sur leur échine. » C'est comme ça qu'il justifie le fait qu'il puisse donner un peu d'amour à Hitler. Il y a un autre personnage qui arrive dans la vie de Shlomo, qui est le personnage de la jeune fille Gretchen. Donc moi, dans les différentes mises en scène que j'ai vues, c'est pour ça que j'en reviens quelque part à la théologie. Cette Gretchen, on dit Gretchen, c'est la serveuse des brasseries. Eh bien moi, j'ai pensé que non, ce n'était pas ça. Parce que c'est vrai que Tabori est un amateur de femmes. En ce sens, il aime beaucoup les jeunes filles. Et je me suis dit, cette jeune fille dont il parle, cette jeune fille de 14 ans, ça n'est pas une grosse serveuse de brasserie, c'est plutôt la Gretchen de Faust. C'est la seule pucelle de 14 ans qui existe encore à Vienne en 1910. Donc c'est une jeune fille très fine, très jolie, très belle, qui emprunte les traits de Sarah Karbachnikov, qui est une très jolie jeune fille. Et c'est la muse de Shlomo qui vient tous les samedis, le jour du Shabbat, pour lui laver les pieds, pour honorer cet homme qu'elle aime, ce vieil homme qu'elle aime. Elle vient lui laver les pieds et lui raconte des histoires d'amour. Voilà. Donc, et alors, naturellement, Shlomo est très ému par cette jeune fille et il essaye de cacher l'émoi physique, hein. Qui se développe en lui au fur et à mesure que cette jeune fille se dénude et se presse contre lui. Donc il veut rester dans la pureté, dans le sacré de son amour. Et quand la jeune fille, une fois dénudée... Parce que ce qui est très beau, c'est que, justement, par rapport à cette théologie qui est très extrêmement belle, le jour du Shabbat, en fait, c'est le jour pour les Juifs, c'est le jour de la prière. Et donc, Shlomo donc chasse Hitler de la maison et attend cette jeune fille, comme tous les samedis, qui vient lui laver les pieds, qui se dénude et le réchauffe dans ses bras. Et ce qu'il y a de très beau, c'est qu'il rentre en prière, mais cette prière qui n'est pas devant un Dieu, c'est une prière vis-à-vis de soi-même. Et à l'intérieur de cette prière apparaît cette jeune fille. Et en lisant comme ça des textes se rapportant au Shabbat, on dit que la prière de Shabbat, c'est le jour du fiancé, c'est l'arrivée du fiancé ou de la fiancée. Et Tabori fait apparaître cette jeune fille à l'intérieur de cette prière qui est transcendée par la beauté de cette jeune fille. Et naturellement, Shlomo, qui est quand même malgré tout un homme qui veut être bon, mais qui a tous les penchants du vieux cochon, à l'intérieur de cette prière, ne peut pas s'empêcher, malgré son besoin de parler à sa conscience, Dieu, de penser au moment où Gretchen va enlever sa petite culotte et où elle apparaîtra dans toute sa nudité. Et donc, quand elle apparaît dans toute sa nudité et qu'elle va chercher le cadeau qu'elle lui fait, ce jour-là, elle amène une poule. Et il dit au spectateur, peut-être après tout, que le but de la poésie, c'est de raconter des histoires à une rose d'enfant nue. Hein, c'est peut-être ça le but de la poésie, c'est raconter des histoires à une jeune fille qui se dénude devant vous. Toute la pièce est ponctuée de cette chose-là.
Il y a aussi Madame la Mort,
oui,
mais on va peut-être l'oublier.
Madame
on va passer
la Mort.
À la question suivante, à savoir...
J'ai une passion pour ta beauté.
Vous êtes passionnée.
Je l'ai rencontrée, je l'aime.
Ça s'entendait.
Je l'aime. Il a 88 ans.
J'aimerais juste,
après, des
questions se poseront, j'imagine, dans la salle, sur la nature de cet amour, peut-être. Mais moi, j'aimerais savoir quelle est la nature du rire de Tabori. Parce qu'il y a le mot farce, quand même. Hein.
Oui, mais c'est une farce, mais je ne vois pas la théologie. Pour Tabori, Dieu doit être joué, aurait dû être joué par Buster Keaton. Et donc, dans la pièce, ce personnage qui est joué par Pierre Barra, tient pas mal de Buster Keaton. Je crois que toute la Bible pourrait être une très très grande comédie, une très grande farce. C'est l'humour juif. Alors l'humour juif est je dirais quelque chose qui donc Tabori a beaucoup insisté là-dessus. Quand je suis allée le voir, il a dit il y a deux choses que je ne veux pas. Un, c'est que la poule, la vraie poule, parce que Tabori met beaucoup d'animaux dans ses spectacles parce qu'il aime l'incontournable, il aime le hasard, il aime que les acteurs soient dérangés et ne soient pas dans des rails. Et les poules, les chèvres, il a travaillé avec des chèvres, il a travaillé avec des chameaux, il a travaillé avec des chiens, il a travaillé avec des éléphants. Les animaux font comme ils veulent, ils font leur mise en scène. En général, elle est bonne, mais elle n'est pas toujours bonne pour les acteurs parce que quelquefois, les animaux s'en vont dans le public et vont chercher un spectateur récalcitrant pour l'inciter à plus d'attention. Et qu'est-ce que je disais? Oui,
je ne sais plus. J'en étais aux poules.
Oui, donc il y a une poule dans cette pièce. Et Tabori aime beaucoup que les acteurs soient dérangés. C'est-à-dire il est dans une permanente improvisation. C'est ça l'humour de Tabori. Quand un acteur ne trouve pas, n'a pas de conviction sur qu'il ne comprend pas le sens d'une chose, il le transforme. L'humour de Tabori dit que ça a à voir avec la catastrophe. L'humour, ce n'est pas l'ironie. Nous comprenons humour et ironie, ça nous semble la même chose. Donc, l'humour, c'est une façon de se moquer de soi. D'ailleurs, Tabori entame les répétitions toujours avec une histoire juive. Alors, je vous en racontais une aussi, si vous le permettez. Je crois qu'il n'y a personne à côté. Alors, c'est l'histoire de... C'est Salomon qui est sur son lit de mort. Et il sent l'ange de la mort peser sur ses épaules. Et alors, il dit à Sarah, viens et habille-toi. Mets tes plus beaux habits, mets tes plus beaux bijoux. Maquille-toi, fais une mise en plis, je t'en supplie. Mets-toi à côté de moi. Je vais mourir, j'ai besoin de toi. Fais ça pour moi. Et elle dit, mais comment, Moshe, tu peux dire une chose pareille? Je ne peux pas faire ça, je suis en larmes, je peux pas, je suis désespérée, je ne peux pas. Elle dit, si, fais ça pour moi, c'est mes dernières volontés. Donc Sarah va dans son cabinet de toilette, s'habille, met sa plus belle robe, tous ses bijoux, maquille, coiffure, etc., tout, et s'allonge à côté de Shlomo et dit, voilà, j'ai respecté tes dernières volontés, qu'est-ce que tu veux? Et il dit oui, bon, écoute, c'est très bien, mets-toi, allonge-toi à mes côtés. Et dit bon, voilà, je suis près de toi, je te tiens la main, mais pourquoi tu exiges ça? Eh bien, parce que je sens l'ange de la mort, il est tout près, et je pense qu'il te trouvera beaucoup plus intéressante que moi. Donc voilà, toutes les répétitions de Tabori commencent par une blague.
Et le spectacle se termine par une blague.
Oui, le spectacle commence par une blague, en fait. Et le spectacle se termine également par une blague.
Mais on ne va pas en dire plus pour garder le suspense.
Oui. Je n'ai rien raconté de ce qui s'est passé, en fait.
Je pense qu'il y a plein de questions.
Oui, c'est comme dans le Talmud. On soulève une page et puis il y a énormément de notes en bas de page. C'est comme la Bible. Il y a un commandement et puis il y a 15 pages de notes avec le commandement.
Des questions dans la salle. Des questions fermées, hein, comme on dit.
Je suis bavarde.
Pas du genre, comment vous avez mis en scène, parce que...
Oui, je l'ai pas mis en scène, en fait.
Monsieur.
Ça, c'est mis en scène.
Semi-ouverte, alors, d'accord.
Oui. Mais oui, alors je vais vous dire, Tabori l'a monté en 87 à Vienne et il n'a pas mis farce. Il l'a monté tel quel, il a mis Mein Kampf, pointe à la ligne. Donc c'était à Vienne, je pense que pour les Allemands c'est quelque chose, bon. Donc c'est une farce grotesque, c'est une farce dans le sens où Gogol est farcesque. C'était pas une farce à nez rouge, etc. C'est une farce dans le sens où il y a à la fois du tragique et du comique. C'est pour ça que l'humour de Tabori a à faire à la fois et avec le rire et avec les larmes. C'est une chose, c'est sentiments mêlés. Je dirais que peut-être que je ne peux pas parler au nom des Juifs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de ma biographie qui je ne suis pas juive, mais j'ai été mariée à un juif, j'ai un enfant qui est donc goy par sa mère et juif par son père, il a la tête d'un juif, il a le nom d'un juif, mais il n'est pas juif pour les juifs, il est juif pour les pas juifs. Donc voilà. Et moi j'avais 16 ans à l'époque et comme j'étais née d'une famille française avec un patrimoine culturel français un peu particulier, je suis née après la guerre. Pour moi, un juif, c'était on disait un israélite, on disait pas un juif, on disait il est israélite. Et j'habitais Toulouse et il y avait la rue des juifs où il y avait les israélites, c'était des gens différents, voilà. Et donc quand j'étais en révolte, à 16 ans, je suis partie, j'étais en révolte, et donc de cette révolte, je me suis mis l'étoile juive, donc je portais tout le temps l'étoile juive. Et puis j'oubliais ça, maintenant, j'ai plus 16 ans, donc je ne porte pas l'étoile juive. Mais tout ça est remonté à la surface dans cette pièce, et c'est pour ça cette pièce et son thème m'a profondément passionnée. Mais pour dire le fait, quand Lavelli a monté Mein Kampf à la colline, à l'époque, je travaillais à la colline et il disait, mais je peux pas mettre un titre Mein Kampf, les gens vont sursauter, ça va être terrible. Donc, son secrétaire général de l'époque, Alain Sadje, je crois, lui a proposé Farce. Parce que, effectivement, c'est à la fois, c'est une pièce tragicomique, c'est aussi une farce, et bon, ça permet cette distance, mais je vois de toute façon, dès qu'on demande qu'est-ce que vous montez actuellement, je monte Mein Kampf, et je vois, une espèce d'horreur arriver, alors je dis Mein Kampf farce, donc ça fait passer un peu la pilule. Mais c'est le livre d'un juif, c'est un juif qui décide d'écrire son combat, mon combat pour devenir un homme meilleur. Et c'est pas facile. Et est-ce qu'on a le droit de montrer un juif qui n'est pas un homme bon? Moi, je pense que oui, et Tabori pense aussi que oui. Et dans la pièce, Shlomo n'est pas forcément un homme bon. Il est peut-être moins mauvais que Shlomo, mais que Hitler, mais ce n'est pas un homme bon. Est-ce qu'on a le droit de montrer un juif pas bon? Oui. Tabori a fait beaucoup d'improvisations sur ce thème. Hein. Il a fait un long travail sur le personnage de Shylock et le personnage de Nathan le Sage. Et on a dans cette pièce un amalgame de Shlomo qui est entre Shylock et Nathan le Sage. C'est-à-dire, il est le juif à la maison et l'homme du commun dans la ville, dans les rues. Bien que la première phrase que dit Shlomo en arrivant chez lui, en rentrant chez lui, avant que Hitler pénètre dans la pièce, il dit « Tu sais, je suis allé au Café Central et on m'a dit « Les Juifs et les chiens ne sont pas admis. » Auquel Dieu répond « Ils n'admettent pas les chiens, c'est scandaleux. Voilà. » Voilà comment commence la pièce.
Une autre question, madame, oui.
Non, voilà, c'est pour ça... Absolument pas. Il rencontre un jeune homme démuni, sans moyens, et il a pitié de cet homme. Voilà. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que Tabori met le spectateur dans une étrange position. C'est-à-dire, il est dans la position de voir à tout moment la perte de lucidité de Shlomo. et ce qu'il y a de très passionnant dans la construction de la pièce, et pourtant Tabori dit qu'il ne fait pas de construction, mais je pense qu'il a une telle connaissance, une telle culture de... C'est un homme d'une immense culture. Finalement, il colle, je dirais un petit peu sans vouloir, théoriser l'écriture de Tabori, qu'il écrit comme Mandelstam écrivait. Mandelstam écrivait en intégrant des morceaux de poésie entiers dans ses poèmes. Et je crois que Tabori colle des phrases entières d'une connaissance, d'une mémoire culturelle. Il infuse ça dans ses pièces. Et quand, effectivement, Hitler a 19-20 ans et Schlomo a pitié de ce garçon qui a envie d'être peintre et qui est refusé de partout, qui est jeté à la rue. Et au fur et à mesure que la pièce avance, Hitler va dévorer tout ce à quoi tient Schlomo. Il va occuper la place centrale, il va chasser Dieu, qui était le compagnon, enfin Dieu, le cuisinier Kacher, donc qui partage l'intimité de Schlomo, il va le faire partir. Il va chasser la jeune fille auquel Schlomo tient profondément. Il va occuper le centre jusqu'au moment où Madame la Mort va arriver. Et Schlomo croit que Madame la Mort vient chercher Hitler comme victime. Et Schlomo cache Hitler et lui dit « Vous le regretterez ». Parce que ça m'intéresse pas comme victime, il est pas du tout intéressant, mais comme ange exterminateur, il est très très doué. Et vous regretterez de l'avoir sauvé, vous regretterez de pas me le livrer. Et donc effectivement, plus tard, donc elle va revenir l'emmener, le prendre comme ange exterminateur.
Y a-t-il besoin d'aller encore voir la pièce ?
Oui, parce que ce n'est pas l'anecdote qui compte, c'est la manière dont Tabori travaille avec cet humour extraordinaire. Et même si on n'a pas une culture juive, on a une culture en tout cas, si on n'a jamais fait d'analyse, on sait ce que c'est que Freud et la psychanalyse. Si on n'a jamais lu la Bible, on sait quand même ce que c'est. On a une culture judéo-chrétienne. Je crois la manière dont les choses sont fabriquées, dont surtout, je crois, ces acteurs sont vraiment... J'ai pris énormément de plaisir à travailler avec les acteurs qui sont dans ce spectacle. Je crois que ça a été un paradis, en espérant que ça de l'Avignon n'en fasse pas un enfer. On ne sait jamais, il faut tout prévoir. Bon, j'aimerais beaucoup que ça reste dans le paradis, ou du moins dans l'intermédiaire. Quoi. Le purgatoire est une bonne chose. Bon, restons dans le purgatoire. Oui, il y a une tournée, ça tourne jusqu'en janvier, donc ça part en tournée à partir de le 5 octobre et ça tourne jusqu'en 31 janvier, voilà, c'est ça. Eh bien, c'est un personnage extraordinaire, c'est un homme qui a 88 ans et qui est en train de mettre en scène aujourd'hui. Aujourd'hui, il met en scène l'enlèvement au sérail, c'est quand même quelque chose. C'est un homme merveilleux. C'est le plus grand séducteur du monde.
Ah !
Je suis amoureuse. Je vais retourner le voir, d'ailleurs. Enfin, voilà, je ne voudrais pas le décevoir. Il n'est pas là, donc il n'est pas là. Il s'excuse auprès du Festival d'Avignon. Il a plus important à faire, puisqu'il met en scène. Donc voilà, donc il n'est pas là.
Merci, Agathe Alexis, pour toute cette passion.
Merci à vous.
Mein Kampf, donc, de Georges Tabori, à la baraque.